Rhizome connecte un point quelconque avec un autre point quelconque. Chacun de ces traits ne renvoie pas nécessairement à des traits de même nature. Rhizome ne renvoie pas nécessairement à des traits de même nature.
Je m'appelle Vinicius, je viens du Brésil, plus exactement à la ville de Curitiba, au état du Paraná. J'ai 26 ans, je suis en ingénieur électrique et du coup ici, maintenant, je suis en CDI à Grenoble.
Et salut, je m'appelle Maria Belén, mais je préfère Mabé parce que c'est comme ça que mes amis m'appellent depuis le lycée. Je suis équatorienne et... Bueno, je suis doctorante à INRAE et je travaille sur l'analyse de sensibilité des modèles des avalanches. À part ça, ça fait presque 5 ans que j'habite en France et 4 ans à Grenoble.
Et alors, tu es venue en France parce que tu parlais français avant?
Oui, j'ai parlé un peu français. La histoire, elle est drôle parce que quand j'avais 20 ans, j'avais regardé un film de Woody Allen qui s'appelle Midnight in Paris. Donc, ça m'a beaucoup donné envie de venir en France. Et je me suis inscrite dans des classes de français, mais c'était surtout du français voyage, français découverte, donc j'ai beaucoup aimé. Mais c'est vrai qu'il y a un gros décalage quand on prend des classes en français pour apprendre à demander où se trouvent les toilettes, des trucs comme ça, ou comment est-ce qu'on prend l'avion. Habiter en France, c'était vraiment un décalage très très grand.
Et alors le français, tu savais en parler un petit peu avant de venir en 2015 ou tu...
Oui, exactement. C'est obligatoire pour nous, pour venir ici, avoir un certain niveau de français. Au début, ce n'est pas un gros niveau qu'il faut que vous ayez, mais un niveau que c'est nécessaire pour vous comprendre qu'est-ce que les profs disent, choses comme ça. On dit que c'est un niveau A2, que c'est intermédiaire, ça veut dire que tu peux survivre.
C'est ça. Demander à manger.
Oui, demander à manger, de l'eau, un lieu pour rester, choses comme ça.
Et comment tu as fait pour obtenir ce A2 alors, avant de venir?
Oui. Dans ma fac au Brésil, on a un centre de langue, de langue. C'est un peu pareil comme un QF ici. Par contre, il s'appelle CELAN, c'est un centre de langue étrangère pour les Brésiliens et aussi pour des gens dehors du Brésil. Donc, ils vont apprendre les portugais. Du coup, j'avais resté là-bas, j'étudiais pendant 5 semestres la langue française. J'ai choisi cette cours parce que c'est un cours pas cher.
En Équateur, oui, j'ai pris ça pendant un an. C'était parallèle avec ma formation. J'ai eu des enseignants équatoriens, des enseignants d'Haïti. Et aussi, à la fin, c'était une enseignante très sympa française qui s'appelait Aurélie, qui m'a beaucoup aidée, donné des conseils.
Et comment tu es arrivée de prendre des cours de français à venir en France? Parce qu'il y a un pas quand même.
Ouais, donc depuis que j'avais trop envie de venir ici, j'ai établi un peu mon stratégie, j'ai commencé à écrire des mails, j'ai postulé en bourse à l'ambassade de France en Équateur. J'ai obtenu la bourse et c'est grâce à ça que je suis venue.
Tu étais en cours d'atelier sociolinguistique avec la CIMAD.
Oui.
Comment est-ce que tu as intégré ce cours?
Ouais, cette cours-là, c'est à cause de ma copine que je l'ai trouvé, parce que ma copine, elle arrivait ici un peu avant que moi, sans se parler un mot en français, qui est bonjour, merci, au revoir. Et elle a commencé un cours au CUEF. Par contre, ça fait un peu cher à elle qui ne travaille pas. Et elle a trouvé cette cour ici. Et du coup, pour moi, j'ai déjà connu le français. Je peux dire que je suis avancé. Par contre, comment j'ai resté presque 3 ans sans parler français, j'ai pensé retourner ici à débuter ces cours pour être plus à l'aise, vraiment souvenir des mots, des règles, des choses comme ça, parce que parfois, si on n'utilise pas la langue, on oublie des choses.
Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter comment c'était quand tu es arrivé en France, au niveau de la langue, de l'apprentissage
Et d'abord, c'était un peu dur, surtout les quotidiens, parce que d'établir des relations avec les autres humains avec un langage si basique, c'est pas évident. Donc, pendant mon master 1, j'ai galéré un peu, mais c'est normal aussi pour les étudiants étrangers. Et c'est surtout aussi le mal des pays. Et avec l'Équateur, on a 7 heures, des heures de décalage, donc c'était un peu compliqué pour discuter avec ma mère. Donc, la
Ah
première
ouais.
année, c'était le plus dur. Mais après, quand j'ai déménagé à Grenoble, c'était trop chouette parce que Grenoble, c'est une ville étudiante. On rencontre plein de gens de plein de pays différents. Donc, la insertion sociale, elle est plus simple. Et aussi, à ce moment-là, mon français, il avait amélioré. Donc, c'était beaucoup plus facile de se faire des amis.
C'est un moment qu'on avait des difficultés, c'est plus difficile pour parler avec des gens, même pour demander un tacos, c'est pas facile de demander parce qu'il faut choisir la viande. Parfois, tu penses pas et mémoriser des mots comme poulet, bœuf, je sais pas, viande hachée, choses comme ça. Par contre, après que j'arrivais, la fac me demandait, c'est obligatoire pour nous dans ce programme qu'on avait fait, à rester à faire du cours du français.
Et c'était pas trop difficile au début dans les cours
Oui, je pense que la chose plus difficile au cours, parce que dans la génie, les mots sont très pareils en portugais et français, donc ça change pas trop. Par contre, la chose plus difficile, c'est à rester à comprendre, dans la compréhension, je veux dire, je sais pas,
dans la compréhension,
ouais, dans
ouais.
la compréhension de qu'est-ce que le prof veut dire. Parce qu'il faut vraiment regarder le prof tout le temps. Si tu regardes à côté de toi pour faire je sais pas quoi, bah, tu as déjà perdu et tu sais pas qu'est-ce qui se passe. Au début, c'est une chose un peu dure. Tu rentres chez toi vraiment fatigué, choses comme ça. Mais avec le temps, bah, je peux dire peut-être là dans mon cas, 3 mois, 4 mois, ça a commencé à être plus normal, le français, la compréhension aussi.
Au bout de combien de temps t'as eu l'impression que ça allait mieux en français, que t'étais fluente et que tu pouvais parler couramment en fait?
Et c'est assez récent aussi. Je pense que
Ah bon?
ça doit faire un an. Ouais. Et c'était une grosse partie à mon copain qui est français. Donc, si vous avez envie d'apprendre un langue, je sais pas, c'est la façon la plus parfaite de faire ça. Ça a beaucoup amélioré mon français parce que dans le quotidien, on parle que ça. Et depuis un an ou 2 ans, maintenant, je pense en français, je rêve en français.
Ah bon?
Ouais,
Tu rêves en français?
je rêve en français. Et même quand
Ouais.
j'y pense ou je réfléchis à des idées, c'est français.
Après ces 3 mois, par exemple, j'ai commencé à faire plus des amis français ou des amis qui parlent que français, qui ne parlent pas portugais. Ça a commencé un peu proche de cette date, cette date, parce que c'est un moment qui j'étais plus tranquille, aussi je comprends mieux, donc c'est plus facile de parler avec des gens sont plus ouverts à ton zéro, parce que au début, si tu fais trop d'erreurs, les personnes parfois vont voulaient pas parler avec vous parce que c'est un peu difficile, ça va demander beaucoup de la personne. Et après que les Français s'arrivaient, ça commençait à être plus tranquille.
ça fait presque 3 ans et demie que je suis avec mon copain. Et oui, lui, c'était vraiment un point marquant sur ma façon de parler français. Parce qu'avant, je parlais un peu français au quotidien, mais c'est surtout l'espagnol et l'anglais. Mais après qu'on s'est connus, on parle de tous les types de sujets. Et je me sens un peu plus, plus confiance en moi-même quand je m'exprime. Et ça, c'était une grosse barrière. Parce que c'est très handicapant de ne pas parler la langue. Des fois, je me sentais comme si j'étais un enfant de 5 ans, que je n'arrive pas à exprimer ses idées. J'avais des idées complexes dans la tête, mais qu'elles sont incapables de sortir de ma bouche. Et ça me frustrait tellement que des fois, je ne parlais pas. Parce que, et des fois c'était aussi la fierté, parce que j'aimais pas faire des erreurs. Et ça, c'était dur mentalement de sortir de ces barrières, de ok, c'est normal, je vais faire des erreurs, mais c'est parti l'apprentissage. Ouais. À certains moments aussi, à la fin de mon première année ou deuxième année, j'étais convaincue que j'allais pas apprendre du français, donc tant pis, c'est pas grave, je retourne en Équateur, je parle espagnol. Et...
Ah oui, t'étais prête à retourner?
Ouais.
Est-ce que à Grenoble ou en France, tu as déjà subi un mauvais regard des gens parce que tu étais étranger?
Bon, à Grenoble, c'est un peu plus difficile parce qu'on a beaucoup d'étudiants ici, donc qui viennent de toute partie du monde. Mais parfois, ça arrive. Ouais, pas trop avec moi parce que j'ai un niveau intermédiaire là, au moins avant, en français. Mais j'ai des amis qui s'arrivaient, qui ont essayé de parler avec des gens et des gens fermaient la tête et disaient bon, je ne vais pas parler avec vous, ou essayer qu'en parler en anglais, ou même il a dit non, je ne sais pas, et il sortit. Donc parfois ça arrive, mais je pense que ce n'est pas trop ici dans notre région. Ouais, peut-être plus à Paris.
Mais ouais, c'est vrai, c'est dur. J'essaie de me répéter que c'est un processus d'apprentissage et c'est normal, ça va prendre du temps, il faut être patient. Mais c'est vrai qu'il y a des moments que c'est très décourageant et je peux faire rester silencieuse et juste voir les autres interagir. Mais sinon, j'ai aussi reçu des conseils des autres amis, comment est-ce qu'ils ont fait pour améliorer leur français. Donc j'écoute des podcasts en français, ça m'aide beaucoup. Et j'essaie d'enregistrer ma voix pour trouver le décalage entre la vraie prononciation et ma prononciation. Et ouais, j'essaie de me motiver aussi de parler aux autres gens. Et des fois, oui, s'il y a des personnes qui ne me comprennent pas, je me dis, bon, tant pis. Des fois, que peut-être ils n'ont pas l'expérience de parler avec des étrangers, ça arrive aussi. Au début, dans mon première année de Paris, il y avait beaucoup de gens qui ne me comprenaient pas. Des fois, ça m'arrive encore. Et des fois, c'est frustrant parce que les personnes me demandent de répéter ce que je dis. Et c'est dur psychologiquement, mais bon, il faut rester aussi. Il faut pas s'énerver pour ce type de choses, ça arrive.
Et si je voudrais vraiment être nickel avec la langue, ça c'est sûr que je vais rester à étudier.
Toi, t'aimerais bien ne plus avoir d'accent?
Ouais, je pense que c'est bon n'avoir pas, parce que parfois il y a des gens qui te disent une chose que tu as bien dit, mais elle ne comprend pas, parce qu'il y a quelques petits mots que ça change, ça change au fin. Donc la personne ne va pas comprendre. Une fois, j'étais au casino pour faire acheter un du beurre, et du coup j'arrivais là-bas et j'ai dit je voudrais du beurre, et la personne elle dit quoi, de la bière? J'ai dit non, c'est pas de la bière, c'est du beurre. Elle a dit bah c'est quoi ça? Et après j'ai expliqué, ouais c'est la chose pour passer dans les pains. Et ok, après elle a dit ah ok, c'est du beurre, ok je comprends. Mais du coup, c'est la même chose que j'avais dit, mais c'est l'action qui avait changé. Donc parfois, il faut avoir une bonne action pour que tous les gens comprennent toi. Je pense que c'est une chose importante. Et du coup, c'est pour ça que je dis que si ça n'est pas arrivé au moment que je travaille ou que je suis avec des autres personnes là, qui parlent français, bah, il faut que je reste à faire des cours.
Parce qu'en fait, ouais, pourquoi vouloir effacer son accent?
Ouais, la première chose, c'est que chaque fois que je me présente quelque part, c'est la question c'est de où est-ce que je viens. Et c'est sympa, mais je nie pas mes origines équatoriennes. Mais en même temps, c'est très réductionniste comme discussion, parce qu'on parle sur Quito, la capitale, il fait beau, et c'est un discours que je le connais déjà par cœur. Mais il y a beaucoup plus de choses qui m'appartiennent, qui sont dehors de ma situation comme immigrante en France. Et il y a des autres sujets qui m'intéressent. Il m'intéresse le féminisme, il m'intéresse le changement climatique, la zététique, les livres. Et si on reste qu'avec l'étiquette étudiant étranger, et les personnes n'essayent pas d'aller plus loin sur ma personnalité qui a plein de charme.
Ça, c'est
C'est une
sûr.
blague.
Et est-ce que tu sens que on fait peu d'efforts, nous, les Français, pour
Oui. Si on fait des comparaisons, par exemple, avec l'anglais, qui et même au Brésil aussi, si on fait des comparaisons avec l'anglais, presque tout le monde parle anglais. Des accents, ça change beaucoup. Les Français, ils ont un très fort accent pour l'anglais. Et normalement, on peut comprendre. Moi, je suis brésilien, je peux comprendre en français qui parle anglais, en indien, en américain et tout ça. Et les Américains, je pense qu'ils sont aussi ouverts. Nous, au Brésil, on fait beaucoup d'efforts pour comprendre qu'est-ce que l'autre personne dit, même si elle n'a pas un bon accent, un bon niveau de portugais. Par contre, ici, je vois pas tout le monde, mais au plus la personne âgée. Qu'elles font, elles faisons pas d'efforts pour comprendre qu'est-ce qu'il vous dit. Normalement, tu parles deux fois. Si la personne a compris, ok. Si la personne ne comprend pas, parfois elle va dire, ouais, désolé, je peux faire rien. Si on fait une comparaison entre le Brésil et les États-Unis, ça c'est sûr qu'ici c'est moins, vous faites moins des efforts.
très international.
Ouais.
Mais par exemple, est-ce qu'entre vous et étudiants internationaux, vous parlez en anglais ou en français?
Et c'est surtout en français.
Ouais.
Dans les pauses café, c'est en français. On parle tout le temps en français.
Et vous vous comprenez?
Ouais, bien sûr. On sait comprendre.
Alors pourquoi les Français, ils comprennent pas?
C'est une bonne question. Je ne sais pas. Un peu la manque d'habitude aussi. Parce que nous, on est un peu habitués à écouter l'accent en anglais et en français des différentes nationalités. Ou...
Mais comment ça s'explique, ça?
Ouais, je pense que l'idée, c'est que j'ai écouté, par exemple, la radio, Radio France Internationale, une personne qui dit que ça vient un peu de la question du français à aimer être, comment on peut dire, clair ou nickel, ouais, parfait. C'est parfait, c'est les bons mots. Et vraiment, je pense que pour vous, aujourd'hui, c'est important d'avoir ça. Je pense que peut-être c'est une question de, qui vous essaye de rester avec votre culture, n'est pas trop absorber des mots anglais, portugais, choses comme ça. Peut-être ça vient de ça. C'est la protection peut-être culturelle que vous avez.
Et est-ce qu'on te reprend souvent sur justement la prononciation ou pas?
Ça dépend de la personne.
Ouais.
Ouais, ouais, ça dépend. Des fois, j'aime bien aussi demander de me faire reprendre parce que ça m'aide à corriger certains défauts qui sont déjà automatisés dans ma tête. Mais oui, ça m'arrive. C'est rare, mais c'est surtout ce que tu peux répéter, j'ai pas compris. Et là, j'essaie de reformuler ce que j'avais dans la tête. Ouais, c'est peut-être les vieilles générations, peut-être c'est des choses qui vont changer avec les jeunes, d'être un peu plus inclusive aux accents, aux prononciations, aux mots.
Salve. Ouais. Ok. Rincon Sapiência, conhecido também como Money Congo, certo? Quando alguém fala que eu não sou um MC acima da média, eu falo... Eu não entendo nada, pai. A cultura do MC ainda vive, certo? Se depender de mim. Vambora! Meu verso é livre, ninguém me cancela. Tipo Mandela saindo da cela. Minhas linhas voando cheia de serói. Dada das cabeças quando rela nela. Partiu para o baile, fugiu da balela. Batemos tambores, eles panela. Roubamos a cena, não tem canivete. As pates derrete que nem mussarela. Quente que nem a chapinha no crespo, não. Crespos estão se armando. Faço questão de botar no meu texto que pretas e pretos estão se amando. Quente que nem o conhaque no copo, sim. Pro santo tamo derrubando. Aquele orgulho que já foi roubado. Na bala de meia vai recuperando. Vários zombie bomba, pela quebrada, tentando ser certo na linha errada. Vários zombie bomba, bumbum granada, se tem permissão, tamo dando sarrada. Seu rap é ruim, na rua não tem as andanças, porra nenhuma. Fica mais fácil fazer as tatu e falar sobre a cor da erva que fuma, raiz africana. Fiz aliança, ponta de lança, um babara uma. De um jeito ofensivo, falando que isso é tipo macumba. Espero que suma, música preta a gente assina. Funk é filho do gueto, assuma. Faço a trilha de quem vai dar dois e também faço a trilha de quem vai dar uma. Eu não faço o tipo de herói, nem uso máscara, estilo Zorro. Música é dádiva, não quero dívida. Eu não nego que quero o torro. Eu não nego que gosto de ouro. Eu não curto levar desaforo. Nesse filme eu sou o vilão 300, Rodrigo Santoro. Eu enfrento, coragem eu tomo. Me alimento nas ruas e somo. Restaurante, bares e motéis. É por esses lugares que como. Anjos e demônios me falaram vamos. E no giro do louco nós fomos. A perdição, a salvação. A rua me serve tipo mordomo. Tô burlando lei, picadilha rock. Quando falo rei, não é Presley. Olha o meu naipe, eu tô bem snipe. Tô safadão, tô Wesley. Eu tô bonitão, tá ligado, fei. Se o padrão é branco, eu erradiquei. O meu som é um produto pra embelezar. Tipo Jequiti, tipo Mary Kay. Como MC, eu apareci. Pra me aparecer, eu ofereci uma zima quente como Hennessy. Pra ficar mais claro, eu escureci. Aquele passado, não me esqueci. Vou cantar autoestima que nem Leci. Às vezes eu acerto, às vezes eu falho. Aqui é trabalho igual Muricy, A noite é preta e maravilhosa, Lupita Nyong'o. Tô perto do fogo que nem o couro de tambor numa roda de jongo. Nesse sufoco tô dando soco que nem Lango Lango. Se a vida é um filme, meu Deus, é que nem Tarantino. Eu tô tipo Django. Amores e confusões, curas e contusões. Fazendo minha mala do pique cigano, tô sempre mudando de corações. Luz e decorações, sorriso amarelo nas ilusões. Os preto é chave, abram os portões. Ai, ai, ai. Quando eu havia gravado a Linhas de Soco, eu falei, pô, tô pra ouvir um bagulho que nem esse. Aí eu gravei mais.
E est-ce que toi tu te sens étranger ici?
Oui, parfois on sent, ouais, parce que il y a des choses qui sont différentes de notre culture et tout ça. Il y a des gens qui regardent un petit peu différent pour toi qui des autres. Mais je pense que ça peut changer avec le temps. Même la personne que tu regardes, et aussi toi qui vas apprendre mieux les langues.
Qu'est-ce que toi tu penses avoir apporté à la France? Et la France, toi, qu'est-ce que tu as appris le plus de ton... Bon, après, c'est pas comme si c'était la fin de ton séjour, mais en France, quelle est la plus grosse découverte sur toi ou autre que tu aies pu faire?
Je pense que j'ai appris à être un peu plus ouverte sur le féminisme, parce que c'est vrai que c'est des sujets qu'on ne parle pas trop en Équateur. On est encore très traditionnel sur des sujets comme l'avortement. Et il y a aussi encore en Équateur, j'ai l'impression, un peu l'Église qui a plein de pouvoir et les traditions très fermées. Et en France, c'est un peu différent dans ce sens-là. Et j'ai beaucoup aimé. Ça m'a permis de vraiment ouvrir mon esprit à être plus tolérante d'une certaine façon. Bon, je n'ai pas de préjugés sur. Quel que soit, je me considère très ouvert, mais c'était beaucoup plus ouvert. Et c'est quoi que j'ai apporté à une phrase? C'est une bonne question. Ça dépend, je pense aussi de ma façon de ma carrière. Dans mon doctorat, on a découvert des choses chouettes, mais je pense que c'est pas trop lié à moi-même. C'est une question difficile de savoir. Je sais pas, j'ai connu des gens aussi. Les interactions qu'on a fait, je lui ai fait découvrir un peu c'était où l'Équateur, et l'Équateur il n'est pas en Afrique, c'est Amérique du Sud.
Et c'est vrai que du coup, à l'échelle des amis et des proches de ton entourage, est-ce que en plus de leur apprendre que l'Équateur c'était pas en Afrique, tu penses que ça a pu un peu les ouvrir
Ouais, j'ai
sur.
bien sûr des autres réalités que des fois on n'y pense pas trop. Mais aussi, je ne suis pas là pour devenir une moraliste. Il y a des choses qui passent mal dans des autres pays, mais c'est de faire aussi prendre conscience qu'en France, il y a plein de choses qui sont bien. Et que pour ça aussi, il faut se battre pour que ça reste toujours comme ça, comme c'est la sécurité sociale, que c'est des choses qu'on appelle en Équateur la semaine des 35 heures des heures congés, parce que c'est des réalités complètement différentes en Équateur. On a que 12 semaines de vacances chaque année, des semaines de 40 heures. Et je pense que l'expérience de vivre à l'étranger, c'est toujours très riche. Ça nous permet de sortir de notre petite boîte de confort, de découvrir des autres cultures, d'apprendre de nouvelles choses, mais aussi faire face à nos monstres. Faire face au rejet social, des fois, faire face à des situations où on perd toute la confiance sur nous-mêmes. Mais après, quand on a appris, on devient vraiment très fort. Donc, je pense que l'expérience d'habiter loin de chez soi, même pendant une courte période, 6 mois, un an, ben ça c'est toujours très chouette.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire quand on est français pour ben mieux intégrer les gens ou même faire l'effort de comprendre comment?
Ouais, je pense qu'une chose intéressante, être que tu essayes de parler en autre langue. Parce que toujours, quand tu parles en autre langue, vous êtes presque une nouvelle personne. Donc, vous allez avoir des défis différents, choses comme ça. Et c'est à ce moment que tu es vraiment, on peut dire, dans la même veste que l'autre personne. Donc tu vas commencer à regarder et penser, oui, c'est pour ça, ouais, bon, ils ont des difficultés, c'est pas facile. Bon, donc je vais être plus ouvert. Donc si tu ne comprends pas, tu demandes de nouveau. Une chose que les Français font, qui c'est bon, c'est la correction. Si on parle d'une chose mauvaise, normalement vous faites une correction. Je pense que ça c'est trop bon. Donc il faut continuer avec ça. Mais être ouverte, c'est intéressant. Parfois, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Si on n'en demande pas de nouveau, ça va rester là. Tu vas normalement sortir et tu vas pas parler plus de ça. Donc si tu demandes, ou même si tu fais je sais pas, des blagues, ou si tu fais sortir un sourire de ta face, un sourire, ça fait déjà une chose plus tranquille pour la autre personne qui parle avec vous.